Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1.
Voilà, après ce moment de recueillement et de prière avec Laurie Giancelli, quel plaisir de se retrouver. Nous sommes le mercredi 23 avril. Merci de finir votre matinée à notre compagnie. Émission encore, bien sûr, spéciale après l'annonce du décès du pape François. Eh bien, je vous propose une émission avec, dans quelques instants, une exclusivité, puisque Anne-Rose Jankovic a réussi à joindre le cardinal François Bustillo, qui donc est arrivé à Rome il y a quelques instants et quelques heures plutôt, et qui donc s'est entretenu avec Anne-Rose Jankovic. Et puis nous aurons également Monseigneur Lacombe, l'archevêque du diocèse d'Auch, qui viendra nous parler aussi bien sûr de sa réaction face après le décès du pape François. Et puis le mercredi, nous retrouvons également un jour, un livre, un auteur, et aujourd'hui nous serons parisiens puisque notre invité Daniel Bezas, que nous avons eu déjà il y a 15 jours, il nous avait parlé de sa maison d'édition. Bien, aujourd'hui, il revient, mais pour une autre passion qu'il a, c'est la peinture. Et il expose dans une très belle galerie qui s'appelle La Lograine, non pas celle de Toulouse, mais celle de Paris, qui est juste en bas de la butte de Montmartre. Donc, ce sera avec Philippe Nouni et Diego Arabal. Voilà pour le sommaire. Restez bien avec nous, puisque c'est une exclusivité. Nous allons avoir dans quelques instants donc le cardinal François Bustillo, donc qui sera au micro d'Anne-Rose Jankovic. Mais pour l'heure, c'est l'essentiel de l'actualité.
Dans l'actualité ce matin, Toulouse et Lourdes rendent hommage au pape François. À Lourdes, des centaines de fidèles se sont rassemblés lundi devant la grotte à l'occasion de la prière du chapelet. Est une messe est prévue en l'hommage du défunt pape ce soir à 19h à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive, des vestiges inédits funéraires ont été révélés dans le quartier Saint-Aubin suite aux travaux de la ligne C. 8 sépultures du 5e siècle ont été trouvées. Du côté de Marignac, lundi, un violent incendie a ravagé un entrepôt de Royal Saveur, grande enseigne de vente d'ail et d'oignons. Aucun blessé n'est à déclarer, mais 70 salariés se sont retrouvés en chômage technique. L'eau n'est plus potable dans le Quercy Blanc pour cause d'un phénomène de turbidité dû aux fortes pluies de ce week-end. Impropre à la consommation, d'autres usages domestiques restent possibles. N'oubliez pas que ce soir a lieu l'hommage au défunt pape François dans le cadre d'une messe. Rendez-vous à 19h à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. De nombreux fidèles devraient se réunir. Un registre de doléances est toujours disponible à l'hôtel de ville depuis hier matin. Et enfin, le quatrième maillot du Stade Toulousain est sorti, réalisé en collaboration avec l'Agence européenne de l'espace et Nike. Il rend hommage aux acteurs de l'aérospatiale qui font rayonner Toulouse.
Merci beaucoup Émile Boudjema, donc de l'école de journalisme de Toulouse, et qui nous accompagne tout au long de cette saison radiophonique. Un grand merci à eux. Je vous propose tout de suite donc un entretien exclusif avec le cardinal Bustillo, qui est au micro d'Anne-Rose Jankovic.
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96.
Bonjour cardinal François Bustillo.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes arrivé à Rome ce mardi après-midi, au lendemain du décès du pape François. Vous étiez, je crois, en Israël lorsque vous avez appris la nouvelle du décès du pape François. Qui vous l'a appris et comment vous avez réagi à cette nouvelle?
Alors, j'ai reçu, ce qui est étonnant, c'est que j'ai reçu un coup de téléphone de Rome quand nous étions dans l'avion pour partir en Israël, et l'avion était prêt à décoller. Donc voilà, donc j'ai dû, on m'a annoncé que le pape était décédé, mais donc j'ai dû faire le voyage, et après rentrer de Jérusalem à Rome directement pour préparer et pour vivre ce moment ici. Ouais, je suis parti avec un groupe d'évêques français, avec de la conférence épiscopale, avec un groupe de personnes de mouvements de solidarité, et avec en particulier des églises d'Orient et d'Israël, en lien avec le patriarcat de Jérusalem. Et donc, j'ai pas pu rester, et donc j'ai dû rentrer à Rome. Voilà.
Et alors, quelle ambiance à Rome, justement, où vous venez d'arriver au moment où nous parlons?
Écoutez, il y a beaucoup de respect et beaucoup de reconnaissance pour le pape. J'ai vu en arrivant à l'aéroport que des personnes que je ne connaissais pas du tout, des policiers ou des gens anonymes, je ne sais pas s'ils savaient que j'étais cardinal, mais en tout cas ils ont dit le pape est décédé, j'étais en clergyman avec la croix pectorale, qui te disent on va prier pour le pape, dites merci au pape pour ce qu'il a fait. Donc il y a une atmosphère de reconnaissance, de peine, et je pense qu'en fait il y a comme pour nous deux sentiments mélangés. C'est quand on perd quelqu'un qu'on a aimé, Donc on a le pape est mort, donc c'est notre guide, c'est notre père, c'est notre frère, c'est membre de notre famille. C'est quelqu'un qui s'est donné jusqu'au bout. Donc quand il part vers le Seigneur, il y a des sentiments de peine, parce qu'on sent l'absence. Mm-hmm. Il y a des sentiments aussi de reconnaissance, parce qu'il a donné. Et quand j'ai vu la bénédiction pour les veaux de Pâques, il avait du mal à parler. Mmh. Il avait du mal à parler. Donc, moi, je me suis dit, voilà cet homme qui s'est donné jusqu'au dernier souffle.
Eh oui.
Jusqu'au dernier souffle. Et il était magnifique de voir que le veau de Pâques, il a béni son peuple. Ensuite, il est passé au milieu de son peuple, place Saint-Pierre, et le lendemain, il est décédé. Donc, un peu comme Moïse, il a accompagné son peuple jusqu'au bout, et après, il est parti vers le Père.
Quand il a été élu pape, aussitôt sur la place Saint-Pierre, il avait demandé au peuple de Dieu réuni au Vatican, place Saint-Pierre, de prier pour lui. Et jusqu'au bout, c'est ce qu'il a fait. Vous mentionnez, vous racontez dimanche. Eh bien, jusqu'à dimanche, il a voulu prier avec le peuple de Dieu. Ça, c'était quelque chose vraiment de fondamental pour lui.
J'ai quelque chose de c'était dans sa nature, dans sa culture, dans sa vision de pasteur. Et il nous avait dit, à nous les évêques, vous êtes des pasteurs, il avait beaucoup insisté, même aux prêtres, la dimension du pasteur, c'est-à-dire qu'il y ait la proximité avec le peuple de Dieu, l'écoute du peuple de Dieu, et il nous disait quand même, vous devez donner le meilleur de vous-même au peuple de Dieu. Donc lui, il l'a fait, il nous a enseigné aussi à le faire. Et donc je crois qu'il y a une cohérence du début jusqu'à la fin, dans son pontificat et dans sa manière de concevoir l'épiscopat et sa mission de pasteur.
Alors vous, à présent, cardinal François Bustillo, vous allez participer au temps d'échange et de discussion avant le conclave, ces discussions qui précèdent le conclave et qui sont appelées les congrégations générales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'établir une sorte de feuille de route, de priorité pour celui qui sera le nouveau successeur de Saint-Pierre?
Non, il s'agit tout simplement de s'écouter les uns les autres, de s'écouter, de se connaître, de discerner en vue de décider. Donc on ne peut pas arriver élire un nouveau pape si on ne se connaît pas et si on n'a pas une vision de l'Église. Donc je trouve qu'il est très riche et très sage de la part de l'Église de ne pas être dans la stratégie ou la politique de base qui profane un peu l'esprit spirituel, mais de s'écouter. Il y a des pasteurs d'Asie, d'Amérique, d'Europe, d'Afrique. On va s'écouter, on va écouter la vision de chacun sous l'Église et en fonction du partage de ce que nous voyons, de ce que nous croyons, et on pourra arriver à quelqu'un qui pourra incarner ce que nous croyons bon et bien pour l'Église. Donc nous devons éviter de tomber dans des tactiques, des stratégies un peu pseudo-politiques. Mm-hmm. Ce n'est pas notre style, ni notre culture spirituelle.
Et pour vous, qu'est-ce qui est bon et bien pour l'Église? Qu'est-ce qui sera important pour les années à venir dans la vie de l'Église? Dans votre livre « Le cœur ne se divise pas », préfacé d'ailleurs par le pape François, vous exprimiez votre souci d'unité, de communion pour l'Église. C'était sans doute une vision que vous partagiez avec le pape François, cette vision de communion. C'est ça qui sera fondateur pour la vie de l'Église?
Je pense que l'Église a besoin, effectivement, d'unité. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup... Alors, le côté positif, c'est que l'Église catholique n'est pas une secte. Donc, nous avons tous des visions différentes. Oui. Il y a des traditionnels, des progressistes. Mais l'important, c'est que nos différences ne se transforment pas en divisions. Mmh. Et l'important, c'est que l'idéologie ne l'emporte pas sur l'idéal. Qui est la différence? C'est noble. Parce que l'Église n'est pas une secte, parce que nous ne sommes pas des clones. Donc là, on est d'accord. Mais nous devons toujours faire attention à ne pas tomber dans une forme de raideur et d'idéologie capable de nous diviser, parce qu'alors on fragilise l'Église. Donc d'abord, l'unité. Et après, moi, je crois que la mission, le pape, il a prêché pour aller vers les périphéries. Nous l'avons vu autour de Pâques, combien de jeunes, combien d'adultes demandent le baptême. Mmh. Je crois que la société a soif spiritualité. Je l'ai dit quand j'étais à Lourdes aussi, beaucoup de personnes soignent la voix, le savoir, le pouvoir, le faire, qui soigne l'être. Et l'Église peut apporter une qualité intérieure à la personne. parce que dans notre société, on insistait tellement sur la réussite professionnelle, voire affective, mais à quel prix ? Parfois, on est fragilisé et on est perdu. Donc, il est important de récupérer la dimension noble de l'être et de l'âme. Voilà, soigner l'âme, soigner l'être profond. Et là, le pape, il a beaucoup insisté sur humaniser l'Église. Alors, humaniser l'Église ne signifie pas la banaliser ou la désacraliser.
Donc, c'est ce que vous direz.
Le verbe s'est fait chair.
C'est ce que vous direz à vos frères cardinaux lors de ces congrégations générales.
Je ne sais pas ce que je vais leur dire, hein, donc il faudra bien préparer. Mais moi, je pense que, comme tous les cardinaux, ce qu'on veut, c'est le bien de l'Église. On est des hommes, on a donné notre vie au Seigneur pour les biens de l'Église. Donc on n'est pas là pour profiter du système ou pour grandir dans le système et franchir de la hiérarchie. Mmh. C'est pas le but de notre vie. Mais on est là pour le peuple de Dieu, ce peuple de Dieu qui nous fait confiance, ce peuple de Dieu qui a soif d'espérance. Donc c'est à nous, les pasteurs, de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est à nous aussi d'être créatifs pour que le peuple de Dieu soit bien et pour qu'il soit heureux.
Et ce peuple de Dieu qui vous fait confiance, puisque 135 cardinaux, je crois, auront à choisir le pape dans quelques jours, dont 5 Français, dont vous, cardinal François Bustillo. C'est 135 cardinaux dont vous faites partie qui ont donc à choisir le pape qu'il faut pour l'Église d'aujourd'hui, pour l'Église de demain.
C'est ça qu'il nous faut. Moi, je pense que c'est une des missions des cardinaux. Vous le savez, c'est soutenir le Saint-Père. Et quand le Saint-Père part vers le Seigneur, là, nous devons donner une continuité à la vie ecclésiale et donner, accoucher, je dirais, d'un bon pasteur pour le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu mérite d'avoir un bon pasteur.
Ça veut dire, dans les jours qui viennent, là, pour vous, pour vos frères cardinaux, une place particulière à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu, pour avoir de bons échanges et pour élire le bon pape.
Voilà, comme le pape l'a dit lui-même, pendant le synode, l'Église n'est pas un parlement. Donc l'Église invoque l'Esprit Saint. Si on n'a pas l'Esprit Saint, on tombe très vite dans des tactiques politiques et dans la logique un peu profane. Mmh. Mais le but de notre vie, c'est d'invoquer l'Esprit Saint pour dire l'Esprit Saint est la fécondité de Dieu. Il faut que l'Esprit Saint nous donne le bon pasteur pour son Église.
Qu'est-ce que vous retenez, vous, à titre peut-être plus personnel, de ces années de pontificat du pape François ? Alors peut-être un échange en privé, peut-être un texte en particulier, peut-être un voyage, peut-être le voyage en Corse en décembre 2024 ?
Voilà, moi je garde d'abord personnellement de sa liberté. C'est un homme libre. Mmh. Et parfois la liberté de sa parole a dérangé. Mais je trouve qu'il est très noble et très juste d'un point de vue évangélique d'être libre. Le pape a parlé beaucoup de liberté à une époque où on est tout le temps dans le calcul ou dans la peur, si je dis pas, qu'est-ce qu'ils vont penser, comment ils vont réagir. Et lui, il était libre. Ça, c'est le premier aspect par rapport au côté personnel. Par rapport au côté un peu collectif, ce qui m'a marqué, évidemment, c'est le pèlerinage en Corse, parce que là, j'étais à côté de lui toute la journée. Donc c'est un privilège. J'ai vu un pasteur capable de prêcher et de vivre, donc je dirais plutôt capable de vivre ce qu'il prêchait, c'est-à-dire la proximité, la bienveillance avec les personnes qui étaient là. Mmh. Quand j'ai vu la bénédiction des enfants, des personnes âgées, on voyait un homme qui vivait sa mission. Il était à l'aise, il était heureux, et ça, je trouve que c'est un beau témoignage pour moi. Voilà, moi, il m'a nommé évêque, il m'a créé cardinal. Il est venu en Corse. Je pense que pour moi, c'est une belle responsabilité de garder la mémoire de tout ce qu'il m'a transmis.
Pardon, mais vous dites que parfois sa parole a dérangé. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner un exemple, à quel moment et en quoi sa parole a pu déranger ? Et qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui aux personnes qui ont pu être heurtées peut-être ou dérangées par sa parole précisément ? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui alors que le pape François est décédé ?
C'est vrai, moi je suis pas l'avocat du pape, hein, donc moi je sais et on a su que parfois dans le domaine économique, dans le domaine de la pauvreté, dans le domaine politique, ou des migrants, ou de l'écologie, ou de la liturgie, parfois il a eu des paroles très libres. Mais il a dit ce qu'il pensait bon et bien. Et dans la réception de ces paroles, il y a eu des personnes qui n'ont pas compris ou n'ont pas accepté. Je pense que cela fait partie aussi de la grandeur de l'Église catholique. Donc, je répète, nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas dans une logique d'endoctrinement. Il est légitime que le pape dise sa parole avec sa liberté et sa responsabilité, c'est le pasteur. Mais on peut comprendre que certains dans l'Église soient d'accord ou pas d'accord. Du moins que nous ne sommes pas une secte. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que la parole du pape est une parole d'unité. Après, chacun a sa sensibilité.
Alors,
on respecte la sensibilité de chacun.
Vous vous trouvez donc à Rome, ou alors, évidemment, ce sont les jours de deuil en ce moment. Et puis, c'est aussi toujours l'année du jubilé, ce jubilé de l'espérance. Peut-être pour terminer, une dernière question sur ça. Quel message d'espérance vous pourriez adresser aux auditeurs de Radio Présence, et peut-être plus particulièrement aux jeunes, depuis Rome, où vous vous trouvez?
Moi, je dirais, j'ai vu beaucoup de jeunes, je suis ici à Sainte-Marthe, et il y a beaucoup de jeunes qui viennent aussi et qui pleurent devant le pape François. Moi, je leur dirais, voilà, gardez la mémoire d'un homme qui était, il était toujours, il y a beaucoup de sourires dans ses discours et dans ses contacts, beaucoup de sourires. C'était un homme qui était joyeux. Dans la joie de l'évangile, il nous a invités à ne pas être tristes, mais joyeux. C'est quelqu'un qui nous a invités à soigner la vie relationnelle. C'est quelqu'un qui nous a invités à soigner la création. C'est quelqu'un qui nous a dit de faire attention aux autres. C'est quelqu'un qui nous a aimés et qui nous a aidés à aimer le Seigneur. Il disait souvent, n'oubliez pas quel est le but, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui veille sur nous, qui nous donne la vie et la responsabilité. Donc, je dirais aux plus jeunes et à tous, gardons la mémoire d'un homme qui s'est donné totalement jusqu'au dernier souffle, avec courage, avec détermination et avec passion.
Voilà, et le Seigneur eh bien, l'a accueilli, et il est à présent auprès de lui, ce cher pape François, voilà, qui est donc décédé ce lundi de Pâques. Merci beaucoup, cardinal François Bistillo.
Merci à vous.
Merci pour les auditeurs de Radio Présence.
Des prix à Lourdes pour nous.
Et oui, vous savez qu'à Lourdes et dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, vous avez des amis qui ne vous oublient pas. Merci d'avoir accordé quelques minutes
Merci
pour leur parler.
Vous.
Merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Et le cardinal Bustillo non plus, elle n'oublie pas donc ses racines, où il est venu, hein. Il a servi dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, et il a donné donc cette interview à Anne-Rose Jankovic. Voilà, un grand merci à lui. On va continuer bien sûr à parler du décès, hein, du pape François, et cette fois-ci nous allons partir du côté du Gers, où nous retrouvons Monseigneur Lacombe, l'archevêque du diocèse d'Auch, qui va bien sûr également donner son témoignage.
Radio Présence à Auch, 89.6.
Bonjour Monseigneur Bertrand Lacombe.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes l'archevêque d'Auch et aujourd'hui vous nous rejoignez par téléphone depuis Loyola, où je crois que vous vous trouvez en pèlerinage avec les jeunes de votre diocèse. Alors on va commencer par ça, tout simplement, un petit mot quand même de ce que vous êtes en train de vivre. C'est le début de votre pèlerinage, hein.
Voilà, nous sommes partis hier d'Auch et des différents lieux du diocèse, et nous sommes arrivés à Loyola pour ce pèlerinage qui était prévu de longue date. Tous les deux ans, nous avons un pèlerinage avec des collégiens et des lycéens et des animateurs. Donc là, on est au total une petite centaine, ce qui est un moment privilégié après avoir fêté la Pâque, et puis au lendemain de l'annonce aussi du décès du pape François. Donc c'est une actualité qui est marquante.
Oui, alors justement, ces jeunes, comment ils réagissent à cette actualité? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que vous avez des moments de prière en particulier pour le pape François?
Ben hier, sur la route, nous avons eu la messe à Nogaro, dans l'église de Saint-Nicolas de Nogaro, et on percevait ce climat de gravité. Ces jeunes n'avaient pas particulièrement rencontré le pape François, mais ils perçoivent bien qu'il se passe quelque chose d'important, qu'il y a une gravité dans notre manière de prier, il y a telle ou telle intention aussi qui est revenue pour lui. Et à la fois nous les avons entendus, et puis nous aurons le temps aussi de parler avec eux, de voir ce que représente le pape dans leur vie, comment ce pasteur suprême de l'Église marque aussi leur génération.
Mmh. Alors une gravité, puis aussi malgré tout l'espérance, avec ce jubilé de l'espérance qui se poursuit et qu'il faut bien vivre malgré tout.
Ben oui, je crois que c'est vraiment ce mélange de gravité et de joie. Gravité parce que nous avions été vraiment marqués par ce très beau geste du pape François d'être sur la place Saint-Pierre, d'être avec son peuple, et puis on se disait, bon, ben, les choses vont continuer, on aura encore des bulletins de santé. Et puis non, au lendemain de la Pâque, mais dans cette grande semaine sainte, c'est la nouvelle du grand passage. Mmh. Et ça, y a vraiment une beauté, une espérance, et je dirais même une confiance dans le fait que le pape François a beaucoup apporté à l'Église et au monde. On est à la fois un peu orphelin, mais on est aussi en confiance parce que ce qu'il nous a donné, ça demeure, c'est toujours présent en nous et ça continuera à porter des fruits.
Dans ce qu'il nous a donné, qu'est-ce qui vous a marqué, vous en particulier, Monseigneur Lacombe? Qu'est-ce que vous gardez peut-être comme un héritage spirituel ou comme un pilier pour la vision de l'Église dans les années à venir?
Eh bien, je me rappelle tout de suite après ma nomination, il y avait eu nomination comme évêque auxiliaire de Bordeaux, il y avait eu un pèlerinage du diocèse de Montpellier auquel j'avais participé, et il y avait eu une catéchèse du pape François sur le bon samaritain au moment de l'audience générale. Donc ça avait été pour moi l'occasion de le saluer, de le remercier personnellement de cette nomination, mais d'entendre aussi son commentaire qui marquait vraiment la compassion et la miséricorde pour l'Église et pour le monde. Et je crois que ce texte du Bon Samaritain exprime bien ce qu'il est et son pontificat, qui est l'attention aux personnes fragiles, l'attention aux plus pauvres, l'attention aux personnes qui sont au déplacement, aux migrants, mmh. et aux personnes qui ne sont pas directement liées à l'Église aussi. Donc je crois que c'est vraiment ce pape de la compassion, de la miséricorde, du courage aussi, qui a lutté pour la vie, et pour la vie en général, pour la vie chrétienne et l'évangélisation en particulier, contre une culture de l'exclusion, du déchet, de l'indifférence. Et ça, je crois que nous l'avons tous à l'esprit et que ça a marqué dans l'Église, mais ça a aussi beaucoup marqué notre monde.
Oui, c'est aussi ce pape qui voulait avoir ce souci du monde, de ceux qui sont très loin de l'Église, des périphéries, parfois peut-être même au détriment, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais parfois en suscitant une réaction chez les chrétiens, chez les catholiques qui sont là et qui se disent, bah oui, aller aux périphéries, c'est très bien, mais nous qui sommes là, nous avons aussi besoin d'être nourris, d'être accompagnés, que notre espérance, elle soit portée. Aller loin, c'est bien, mais nous qui sommes là, comment on est nourris? Il y a eu aussi parfois cette réaction-là.
Je crois que dans l'Église, c'est pas une chose ou une autre, c'est les deux. Hein. C'est ce que fait oui. le Christ, et c'est ce que nous a donné le pape François. Mais je crois que son insistance pour l'Église, elle a été très forte dès le départ, avec Evangelii Gaudium, qui est ce grand texte sur la mission, des choses qui maintenant nous paraissent communes, tellement c'est venu, on se dit, on est appelé à être disciple missionnaire. Mais au moment où c'est sorti, on se disait, tiens, cette expression, disciple missionnaire, qu'est-ce que c'est? Oui, alors, oui, c'est vrai, on est disciple, on est missionnaire, et on est vraiment encouragé à la mission et au dialogue avec notre monde. On est un peu comme un hôpital de campagne où il faut panser les plaies, où il faut aller vraiment là où on a besoin de nous, contre certaines pastorales du guichet ou certaines pastorales de la conservation. On est vraiment dans une perspective de conversation. Je pense un terme qu'on a repris avec les jeunes dès hier à propos de Saint Ignace de Loyola. C'est pour nous une manière aussi d'honorer le pape François que de vivre ce pèlerinage dans la spiritualité jésuite. Et on a repris ce beau terme de rêve. Je me rappelle au JMJ de Panama, il avait vraiment repris ce beau terme de sueño, de rêve. Quel est notre rêve? Quelle est notre créativité? Qu'est-ce que nous voulons? À quoi le Seigneur nous appelle? Et je crois que c'était larges horizons qu'il a voulu donner à la fois pour l'Église et pour le monde. Ou pour le monde, il est cette figure rassurante. Et je crois que la préparation de ces obsèques montre vraiment un attachement de très nombreuses personnes à la stabilité qu'il a pu donner. Mais pour l'Église, c'était aussi cette incitation à progresser, à avancer, peut-être d'abord dans le domaine de la famille, qui est vraiment le domaine le plus marquant, avec l'exhortation post-synodale à Maurice Laetitia, qui a permis de reprendre les choses vraiment dans la droiture et la souplesse. Hein. Il nous a rappelé que être droit, c'est pas être raide, mais c'est vraiment recevoir l'Évangile, c'est le mettre en application. C'est aussi ce qu'il a fait pour que l'Église soit une maison sûre. Et puis dans les domaines qui concernent plus particulièrement la vie de l'Église, eh bien son insistance sur la synodalité a permis de reprendre à frais nouveau le Concile Vatican II et de le réentendre à l'écoute de l'Esprit et de le réentendre ensemble. Donc ça a été aussi, je crois, quelque chose qui nous a beaucoup marqué, son style ecclésial qui était vraiment puisé dans l'Évangile et dans une dévotion populaire qu'il a toujours encouragée. Et il est beau que son dernier déplacement était en France et Ajaccio, sur la dévotion populaire, où on sentait que ce lien avec la Vierge Marie, avec ses foules qui étaient là nombreuses, c'était ce qu'il aimait, ce qu'il a encore vécu jusqu'à...
Jusqu'au bout, dimanche.
Jusqu'au grand passage. Et puis, ces insistances qu'il nous a données sur la liturgie, sur la sainteté, sur la prière, jusqu'au jubilé pèlerin d'espérance. Hein, c'est ce que, je crois, il voulait nous donner, que nous puissions vivre de cette vie chrétienne, à la fois pour nous-mêmes, pour être nourris, mais aussi pour notre monde.
Alors, vous mentionnez la liturgie. Sur la liturgie, par exemple, c'est un sujet sur lequel il n'a pas fait l'unanimité, où il n'a peut-être pas su faire comprendre ce qu'il voulait dire. Et ça ne lui a pas valu que des amis, hein, pour dire les choses très clairement. Peut-être cette question qui peut nous servir aussi pour l'accueil du futur souverain pontife. Le pape, on est obligé de l'aimer, Monseigneur Lacombe ?
C'est la liberté de chacun, hein, nous le recevons de l'Église, hein, et donc je dirais, comme des personnes de notre famille, il y a un lien qui est au-delà des sentiments. Il y a vraiment ce don de Dieu qui nous est fait, et je crois que ce que nous voyons aujourd'hui marque bien que le pape François n'a pas souhaiter faire plaisir aux gens, mais vraiment les faire entrer dans les réalités de la vie, dans les réalités de la dignité de la personne humaine, dans le respect de la justice, dans l'attention à l'autre. Et c'est pour ça qu'aussi j'aimais bien, au début de notre entretien, citer ce texte du bon samaritain, hein, c'est-à-dire que celui qui est là, celui qui est sur le chemin, on fait attention à lui, on vient panser ses plaies, on est là, et je crois que c'est vraiment prophétique de sa part de nous rappeler vraiment à notre mission. Donc chacun, c'est vrai, a sa spiritualité, comme lui avait sa spiritualité jésuite, et que nous vivons avec ces jeunes là tous ces jours-ci. Mais le lien que nous avons avec nos pasteurs, avec le pape François, c'est pas une question de goût, c'est pas une question de sentiment, c'est une question vraiment de don de Dieu, de celui qui a été choisi, de celui qui a été élu, celui pour lequel on a discerné et qui nous est donné. Et je trouve que ces trois derniers papes que nous avons eus, moi je fais partie de la génération Jean-Paul II qui m'a beaucoup beaucoup marqué, et puis nous avons eu le pape Benoît XVI, qui vraiment nous a ancrés dans notre tradition, qui nous a donné le goût de faire de la théologie, de savoir d'où nous venons. Et le pape François, en s'appuyant sur ces deux de prédécesseurs et ancré dans la tradition que je rappelais par cette dévotion populaire, mais par bien d'autres éléments comme sa spiritualité jésuite, eh bien, a ouvert nos portes et vraiment nous a tourné vers ceux qui attendent de Dieu, qui ont un peu du mal à le trouver. Et je crois qu'il a vraiment permis un pas dans une unité, enfin en tout cas dans une réconciliation entre l'Église et le monde dont nous avions besoin. Donc nous verrons ce que l'Église va nous donner par le choix des cardinaux, mais ce que nous avons reçu des trois derniers papes marque vraiment une belle manière d'être chrétien par une fierté d'être à la suite du Christ dans notre monde.
Merci beaucoup, Monseigneur Bertrand Lacombe. Merci d'avoir été avec nous depuis Loyola, où vous vous trouvez donc avec les jeunes de votre diocèse. Merci pour cet hommage au pape François, donc que vous offrez aux auditeurs de Radio Présence. Très bon pèlerinage avec tous ces jeunes.
Merci beaucoup.
À bientôt, Monseigneur.
À bientôt.
Merci également à Anne-Rose Jankovic. Voilà, nous étions il y a quelques instants avec Monseigneur Lacombe, donc l'archevêque d'Auch. Et puis, juste avant, il y avait bien sûr le cardinal François Bustillo qui était au micro d'Anne-Rose. Bravo à elle pour le travail. Et vendredi, ça continue, puisque cette fois-ci, on va parler plus précisément de ce qui va se passer maintenant après l'enterrement du pape François pour qu'il y ait un nouveau pape qui va être nommé. On en parlera bien sûr dans l'émission de vendredi. Pour l'heure, nous allons marquer une pause et cette fois-ci, c'est le journal qui arrive.
Présence à Sévrac-le-Château, 102.3.
Et ce journal nous est présenté par Émile Boudjoma de l'école de journalisme de Toulouse. Bonjour Émile.
Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, Toulouse est lourde, rend hommage au pape François. L'archevêque de Toulouse, Guy de Kerimel, affirme que c'était un pape qui a invité l'Église à une transformation missionnaire. Rejoignons les intuitions de beaucoup. À Lourdes, des centaines de fidèles se sont rassemblés lundi devant la grotte à l'occasion de la prière du chapelet. Une procession au flambeau lui étant dédiée devant le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes a suivi. Une messe est prévue en hommage du défunt pape ce soir à 19h à la cathédrale de Saint-Étienne de Toulouse. Des squelettes en plein centre-ville de la Ville Rose dans le cadre d'une opération archéologique préventive. Des vestiges funéraires inédits ont été révélés dans le quartier Saint-Aubin. Suite aux travaux de la ligne C du métro, 8 sépultures du 5e siècle ont été trouvées, avec notamment des corps d'hommes et de femmes, mais également de la monnaie, un balsamère en terre cuite et un petit flacon de parfum, d'après le communiqué de Tisséo et de l'INRAP.
Les flammes ont envahi un entrepôt dans un village du Tarn, Émile.
Absolument, Jonathan. Violent incendie du côté de Marignac lundi. Les flammes ont ravagé un entrepôt de Royal Saveur, une entreprise spécialisée dans la vente d'ail et d'oignons. Le bilan ne déclare aucun blessé, mais 70 salariés se retrouvent en chômage technique. Au total, 40 pompiers ont été mobilisés. La région Occitanie arrive à la moitié de son mandat. En plus de se féliciter d'un bilan assez positif, une nouvelle mise en place arrive en fin d'année 2025. Il s'agit d'un comité régional de dialogue citoyen. Benjamin Assier, élu de la région, nous en dit plus.
Pour ne pas en rester simplement sur une séquence où on va aller à l'écoute, etc., c'est d'essayer de trouver comment on installe pour toute la durée du reste de la mandature une forme de dialogue qui soit le plus représentatif possible, mais à la fois souple si on veut que ça fonctionne au quotidien, pour pouvoir échanger. Et puis, ce comité a vocation à faire sortir aussi de nouvelles initiatives pour permettre à l'ensemble des citoyens, puisque là, ça fonctionne par tirage au sort sur un principe de représentativité. Donc il est évident que les 6 millions d'habitantes et d'habitants de la région vont pas être au quotidien en dialogue avec les élus de l'Occitanie. Mais l'idée est de vraiment instituer des instances où régulièrement on peut avoir ce dialogue qui est toujours fructueux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, entre élus, le principe de notre action politique, c'est d'être à l'écoute des évolutions. Notre projet, il a déjà été élaboré il y a un peu plus de 3 ans. Le monde, il bouge. Notre pays, il est face à des difficultés particulièrement fortes. Donc, c'est important de continuer à essayer de se nourrir aussi du génie collectif occitan-catalan.
Pour rappel, la région Occitanie est la première à avoir initié une convention citoyenne à l'époque de l'élaboration du pacte vert. L'eau n'est plus potable dans le Quercy blanc et ce déjà depuis hier. Les raisons sont principalement dues aux fortes pluies de ce week-end qui ont entraîné un phénomène de turbidité. elle sera encore impropre à la consommation pour la boisson, la préparation des repas et le lavage des dents. Pendant quelques jours, les autres usages domestiques restent possibles. L'eau bouillie peut être, elle aussi, utilisée. N'oubliez pas que ce soir a lieu l'hommage du défunt pape François dans le cadre d'une messe. Rendez-vous à 19h à la cathédrale de Saint-Étienne de Toulouse. De nombreux fidèles devraient se réunir. Un registre de doléances est toujours disponible à l'hôtel de ville depuis hier matin. Du noir spatial pour le nouveau maillot du stade. Le quatrième maillot du stade toulousain est réalisé en collaboration avec l'Agence européenne de l'espace, Nike, et le soutien du CNES et de la Cité de l'espace. Il rend hommage aux acteurs de l'aérospatial qui font rayonner Toulouse et sera porté samedi à l'occasion du match face au Castres Olympique.
Voilà, le journal nous était présenté par Émile Boudjama, donc de l'école de journalisme de Toulouse. Nous l'avions il y a 15 jours avec nous, Daniel Bezas. Il nous avait présenté une maison d'édition un peu particulière. Cette semaine, il revient en compagnie de Philippe Brunier et Diego Arabal pour nous parler cette fois-ci d'une autre de ses passions. Et on va partir pour Paris.
Présence dans la cité mariale 96.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercaz.
Philippe Noni, Diego Arabal, fidèle au rendez-vous, un jour, un livre, un auteur. Alors, vous avez fait simple cette semaine, Philippe Noni, puisque vous n'êtes pas trop embêté. Vous rappelez le candidat qui est revenu la deuxième semaine, votre invité. Bonjour d'abord à tous les deux.
Bonjour Philippe Subercaz.
Bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe. Et j'oublie pas moi, Diego Arabal aussi, tranquille, installé et qui écoute avec beaucoup d'attention.
Et ben, il était intéressé, Diego, parce que Diego, il travaille aussi sur une maison d'édition, hein, les éditions Arcane 17. Et comme la semaine dernière, avec notre invité, on parlait des éditions Carnet Livre, qui est une maison d'édition extrêmement originale, puisque ben, le créateur hein, de cette maison d'édition, hein, qui a 20 ans cette année, il a créé en 2005, fabrique, assemble ses propres livres. Oui. Donc c'est quand même original. On recommandait la semaine dernière, effectivement, d'aller sur Internet, donc voir les vidéos de Patrice Velu, VELUT, donc qui présente, hein, qui a fait des vidéos extrêmement intéressantes sur les créations de Daniel Bezas. On le retrouve cette semaine, comme vous le précisiez, Philippe Subercaz, parce que nous avions évoqué donc sa maison d'édition, les éditions Carnet Livre, mais c'est un homme proté, Daniel Bezas, c'est un touche-à-tout. Il écrit, il publie, mais aussi il peint.
D'accord.
Et il fait des expositions, on en parlait semaine passée, donc il y a une exposition actuellement, on recommande aux auditrices et aux auditeurs qui restent sur Paris d'aller la voir à la Halle Saint-Pierre à Paris, au pied de la butte de Montmartre. Alors, la Halle Saint-Pierre, c'est un musée, hein, on va en discuter avec notre invité, c'est un musée consacré à l'art naïf, l'art brut, l'art singulier, l'art outsider. On va voir un peu ce que c'est que tout ça, parce qu'il est amené à y publier. On n'avait jamais fait d'émission là-dessus, donc on va se rattraper aujourd'hui.
Mais bien sûr, je vous fais confiance. Allez, je vous laisse votre invité.
Bonjour Daniel Bezas.
Bonjour.
Bonjour Daniel.
Merci Bonjour. D'être revenu parmi nous pour nous accompagner à nouveau, Daniel Bezas. Donc suite à l'émission de la semaine passée sur, qu'on avait fait sur les éditions Carnet Livre, donc la maison d'édition que vous avez créée donc, il y a 20 ans, très exactement cette année. Pour parler de cette exposition que vous effectuez actuellement à la butte Montmartre, hein, donc je le précisais à la Halle Saint-Pierre, donc dans un musée consacré à l'art naïf, l'art brut, l'art singulier, l'art outsider, vous pouvez nous préciser et préciser un peu pour les auditrices et les auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un musée qui est consacré à l'art naïf, l'art brut, l'art singulier, l'art outsider ? On vous écoute.
Alors, enfin moi j'ai découvert l'art brut par l'intermédiaire d'un autre musée qui s'appelle la Fabuloserie dans Lyon et qui est un musée qui rassemble les œuvres d'artistes qui ne se revendiquent pas vraiment artistes en fait. Et ce sont des personnes comme vous et moi, du quotidien, souvent qui n'ont pas fait vraiment d'études au moins supérieures et qui pratiquent l'art au quotidien pour vivre en fait, pour les accompagner dans la vie. Et certains ont des productions tellement incroyables et magnifiques et totales et totalement engagées que des artistes, des personnes liées à la culture les ont remarquées et ont proposé de les collecter, de les rassembler pour les mettre dans des musées. Et à Paris, il y a donc ce petit musée qui s'appelle le musée de la Halle Saint-Pierre, qui est dans une halle métallique, une très belle halle à côté du marché au tissu, le marché Saint-Pierre, notamment le marché Rennes, etc.
C'est dans le quartier de Barbès, c'est au pied de la butte Montmartre. C'est un lieu où il y a énormément de passages. Et ce musée accueille donc, sans avoir de collection permanente, des expositions d'art brut. Le musée est dirigé par Martine Luzardi. Et il accueille des collections d'art brut, d'art singulier, d'art...
outsider.
Voilà, outsider, d'art asilaire aussi, on parle de ce genre d'art, je ne sais pas si la dénomination est encore utilisée.
Ouais. Alors, on va les préciser pour les auditrices et les auditeurs. L'art brut, donc vous nous avez dit, hein, c'est des personnes
oui.
effectivement qui ne se revendiquent pas à hauteur, mais qui ont besoin effectivement de la création pour les accompagner de leur vie. L'art singulier, c'est quoi ce qu'on appelle l'art singulier?
C'est par exemple les artistes qu'on n'arrive pas à classer dans une école. Vous savez que de l'art est quand même comme beaucoup de choses, comme la littérature, comme plein de choses. Le cinéma, c'est quelque chose qui est extrêmement normé. Et donc, quand un artiste s'exprime, on va dire « Ah, lui, cet artiste, il fait partie de tel courant, il est dans telle école et dans tel genre artistique. » Et les artistes proposent des œuvres, on n'arrive pas trop à les classer. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et souvent, c'est reconnu ce n'est pas reconnu toujours par l'art officiel. Ce qu'on appelle l'art officiel, c'est juste l'art qui rentre dans le marché de l'art, ouais. Tout simplement. Hein. Il n'y a pas une personne qui dit « Oh, ça c'est officiel, ça c'est pas officiel. » Non, c'est ça. Et donc, ce sont les productions de personnes qui n'arrivent pas à se mettre dans un genre, qui ont plusieurs cordes à leur arc, plusieurs casquettes, plusieurs je sais pas. Ça, c'est...
Et l'art outsider, et alors, donc là on a défini ces trois arts, l'art outsider, alors, comment vous le définissez?
C'est plutôt un terme anglophone. C'est l'art, par exemple, vous pourrez mettre dans cette catégorie-là les gens qui font du tatouage. C'est un art à part entière, et c'est plutôt, et comme c'est très développé, ça s'est beaucoup développé dans les pays anglo-saxons, ça a été classé, rangé un petit peu dans ce modèle-là. Et du coup, ça s'expose aussi. Voilà, comme n'importe quel autre art. Ça s'expose d'abord sur la peau, bien sûr, mais les dessins, les œuvres qui sont faites autour par des... Voilà. Et c'est peut-être un peu plus dans ce genre-là, mais c'est aussi des personnes proches qui pourraient être proches de l'art brut. Les contours sont assez flous, quand même. Hein.
D'accord.
Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'art outsider. Là, j'en parle, je vous invite à aller jeter un œil. Et il y a des œuvres qui sont totalement incroyables. Voilà.
Alors, vous, justement, donc, vous exposez, hein, vous faites une exposition, donc
oui.
Actuellement, hein, moment où alors, on parle, hein, donc
oui.
On invite les auditrices et les auditeurs hein, qui nous entendront, qui vont aller sur Paris, donc on le rappelle, hein, à la Halle Saint-Pierre, donc c'est au pied de la butte Montmartre, donc à Paris.
Oui.
Racontez-nous un peu ce qui se passe dans votre... Voilà. Racontez-nous un peu ce qui se passe dans votre exposition, ce que vous y faites, quand est-ce que c'est ouvert, les horaires, si c'est gratuit,
oui.
etc. Voilà, présentez-nous un peu tout ça.
C'est ouvert... pardon, je t'ai coupé la parole. C'est ouvert tous les jours, à partir de 11h, jusqu'à 8h, une fois, je crois, jusqu'à 19h. Il y a un café en bas, vous entrez, donc il y a un café... accessible normalement, et dans le café il y a une très grande galerie à l'intérieur du café, donc les tables sont au milieu des œuvres. Il y a une grande galerie où en accès libre où vous pouvez contempler les œuvres des artistes qui a des choses ici. Et à côté il y a la librairie qui est une librairie spécialisée d'abord sur l'art brut, sur l'art singulier, donc vous trouvez des choses qu'on trouve vraiment très rarement ailleurs. Et ensuite vous avez la partie musée dans laquelle actuellement il y a une exposition consacrée à l'art brut d'Iran, qui
d'accord.
est magnifique, qui est sublime celle-là, donc il faut acheter un billet pour pouvoir y accéder. Un artiste incroyable qui fabrique des machines, des automates, qui s'appelle Gilbert Peyre, P-E-Y-R-E, et qui est là pour encore 2-3 mois d'exposition.
D'accord, je vois que Diego Arabal est en train de regarder sur son ordinateur pour
ouais.
pouvoir effectivement... je suppose, Diego, qu'on peut aller que vous êtes sur un site.
Je suis sur un site qui reprend...
Le site de la Halle Saint-Pierre.
Non, pas celui de l'Halle Saint-Pierre. Là, je suis sur un site qui reprend la discussion, ou du moins la définition de l'art outsider.
Ouais.
Après, je vais aller sur l'Halle Saint-Pierre pour
D'accord, regarder. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc, on rappelle.
Je suis silencieux, mais je travaille en même temps.
Oui, mais il travaille en même temps. C'est notre. il n'a pas l'air d'égout, mais c'est vraiment là-dessus. Il nous trouve les éléments qui, par moment, nous manquent. On rappelle pour les personnes qui prendraient l'émission, donc en cours de route, hein, qu'on est avec Daniel Besas. On était avec lui déjà la semaine passée. Pour parler de sa maison d'édition, donc les éditions Carnet Livre qui fêtent cette année donc son 20e anniversaire. Alors maison d'édition très particulière, on invite les auditrices et les auditeurs à écouter le podcast donc de l'émission donc de la semaine dernière. Et cette semaine avec lui, on est avec lui à nouveau pour parler de l'exposition, parce que c'est aussi un artiste qui expose effectivement des œuvres. À la Halle Saint-Pierre à Paris, au pied de la butte Montmartre, dans un musée consacré à l'art naïf, l'art brut, l'art singulier, l'art outsider. On vous invite à réécouter le début de l'émission si vous ne l'avez pas entendu pour voir ces définitions-là, ou sinon de faire comme Diego Arrabal, là, qui en ce moment est en train d'aller consulter ces différentes définitions. Qu'est-ce que vous présentez comme tableau, vous, à l'intérieur, Daniel Besas, vous particulièrement?
Alors c'est une exposition un peu particulière. Cette année, j'en ai fait deux chez eux. J'ai d'abord, il y a quelques mois, il faut que j'en parle, c'est pour ça, j'ai exposé une peinture à l'huile qui fait 2,20 m sur 32 m de long en 23 panneaux. C'est un manuscrit géant, que tout entièrement peint à l'huile, de conception narrative, on va dire, et qui raconte la vie, ça s'appelle Après les guerres, et ça raconte la vie de personnes qui ont survécu à des guerres. et ça, c'est ce que j'ai montré pendant un mois cette année à la Saint-Pierre. Et là, ils m'ont proposé d'exposer, en fait, les artistes de Carnet Livre, et moi aussi un petit peu, bien sûr, sur les murs de la Halle Saint-Pierre. Et donc j'ai invité 10 artistes, parmi lesquels deux que je n'ai pas publiés, deux artistes que je n'ai pas publiés, et comment dire, et donc j'ai installé sur les murs, dans le café, donc en accès libre, 10 lutrins au mur, sur lesquels j'ai fixé les ouvrages des artistes. Et au-dessus des ouvrages des artistes, je leur ai demandé d'accrocher quelques œuvres sur 2 mètres de large. Et donc, il y a 82 œuvres qui sont exposées sur les murs. Et on a appelé cette exposition Carnet libre quand les artistes sortent des livres. Voilà.
D'accord, Carnet libre quand les artistes sortent des livres. Alors, j'ai vu hier soir une vidéo qui présente effectivement, pour préparer cette émission, je l'ai regardée, c'est une vidéo YouTube sur l'exposition dont vous venez de nous parler, donc les hommes après la guerre. Alors elle est très émouvante,
on voit
notamment un homme qui a des cicatrices, on voit un homme qui laboure, un agriculteur, un agriculteur qui laboure,
j'ai
le sentiment quand je le voyais qu'il lui manquait un bras. Donc en fait, qu'il était obligé de tenir. Alors, quand il laboure, on précise, hein, il n'est pas dans son tracteur. Il a donc un cheval qui est devant, avec une petite houe donc derrière, et il tient la houe donc d'un bras, et on comprend bien la difficulté que ça peut représenter pour lui. Mais d'un autre côté, on mesure bien dans votre tableau ce retour à la vie qui est essentiel. Et alors, j'imagine que dans le contexte actuel, qui est le nôtre. Avec la guerre qui est revenue en Europe, c'est une exposition qui n'est pas neutre, je suppose, Daniel Besas.
Non, c'est une exposition que j'essaye de montrer. Ce sont des tableaux, c'est les seuls tableaux que je ne vends absolument pas. C'est une fresque que je ne pourrais pas refaire. Je l'ai faite il y a 20 ans, dans un état semi-second, on va dire. J'ai peint cette fresque de 32 mètres de long dans un appartement qui faisait 10 mètres carrés, à peu près, sixième étage sous les toits, hein, comme un classique de Paris. Et comment dire, l'objet, c'est sorti comme ça. D'ailleurs, c'est un de mes premiers tableaux. Je ne peignais pas vraiment avant. C'est sorti comme ça. Et l'objectif, c'était de montrer la vie en traversant le monde. Et donc, je suis parti d'un endroit. Et j'ai traversé la campagne, j'ai traversé une ville. Et je suis arrivé au milieu de l'océan et en vue des côtes d'un autre continent. Je me suis arrêté parce que j'étais épuisé. Donc, Voilà. Et tous les personnages des tableaux, qui est une conception, on va dire, assez réaliste quand même, même si avec ses caractéristiques, tous les personnages des tableaux sont tous blessés, mutilés, réparés. Et ils continuent à vivre.
Donc, ils continuent à vivre, c'est ça qui
est... Ils travaillent, ils marchent, ils vont courir, ils font l'amour, voilà, et ils jouent au foot, ils vivent, et comment dire, et tout autour, et tout le tableau est entièrement recouvert d'un récit qui, donc de texte, c'est-à-dire j'ai peint le tableau d'abord, une fois que c'était sec, j'ai réécrit par-dessus le tableau un texte dans une couleur blanche, au pinceau et à l'huile encore, et donc ce qui fait que le texte est entièrement recouvert le paysage est entièrement recouvert, on le voit très bien le paysage, hein, il n'y a aucun problème, mais il y a ce texte par-dessus qui, comme si deux mondes coexistaient, qu'ils ne se connaissaient pas, l'un un monde du discours et l'autre un monde de la vie réelle, et que, comment dire, les autres finalement, les deux se nourrissent l'un de l'autre, malgré, au-delà des époques et des temps.
J'invite d'ailleurs les auditrices et les auditeurs à découvrir donc cette vidéo où on voit ces tableaux qui durent entre 11 minutes à peu près, qui durent 11 ou 12 minutes.
Oui, c'est Patrice Velut.
Voilà.
Qui l'a réalisé.
Voilà, ouais. C'est Patrice Velut, donc VELUT, qui l'a réalisé. Donc hier soir, j'ai tapé, moi, pour préparer cette émission, Daniel Bezas, donc Carnet Livre, et je suis tombé donc sur cette vidéo très étonnante. Qui présente effectivement cette œuvre qui est actuellement exposée, donc on le rappelle, à la Halle Saint-Pierre à Paris.
Un petit bout est exposé là, avec les autres artistes.
Avec les autres artistes, voilà, au pied de la butte, de la butte Montmartre.
Je cherche toujours des lieux pour exposer cette œuvre.
Voilà. Et alors, c'est la question que j'allais vous poser, effectivement, quand vous dites que vous cherchez des lieux pour exposer cette œuvre, comment on fait, une fois qu'on a fait une œuvre, pour l'exposer, pour trouver une exposition? Vous allez voir les gens dans les halles, vous rencontrez les directrices, comment ça se passe? Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît
pas.
Non,
en fait, la Halle Saint-Pierre, j'ai eu beaucoup de chance. C'est qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé à fabriquer mes livres à la main et que j'avais mes petits paquets de livres sous le bras pour démarcher des libraires, je suis tombé sur deux libraires exceptionnels à la Halle Saint-Pierre qui s'appellent Pascal Ecker et Laurence Mendelbaum, pardon, qui ont fondé la librairie spécialisés d'art sur l'art brut de la Halle Saint-Pierre. Ils sont maintenant à la retraite. Et donc, c'est grâce à eux que j'ai pu rentrer dans ce lieu assez extraordinaire. Et donc, petit à petit, avec le temps, au début, ils ont vendu mes livres. Ils ont très, très bien vendu mes livres. Ils les ont bien défendus. Et ils vont le faire, d'ailleurs. Et ensuite, ils se sont aperçus que je faisais aussi, que j'avais fait ces tableaux. Donc du coup, ça les a beaucoup intrigués. Et au bout d'un moment, on m'a carrément proposé de les exposer là-bas, en partie. Donc j'ai pu exposer ces tableaux 3 fois en 20 ans chez eux. Jamais dans l'intégralité, parce que les tableaux, c'est trop grand. Et même si la Halle Saint-Pierre, c'est grand, il n'y a pas 32 mètres linéaires pour exposer l'ensemble des tableaux.
On est d'accord, oui.
Mais j'ai pu en mettre une vingtaine de mètres. Ouais. Voilà.
Ça vous prend combien de temps pour faire ça, pour faire une œuvre comme ça, qui fait une vingtaine de mètres linéaires?
En fait, j'ai mis deux ans complètement, tout en travaillant comme surveillant dans un collège à côté. Et j'ai peint pendant 2 ans et... Et comme je vivais dans une petite chambre de 10 mètres carrés, je faisais des tableaux. Il me fallait un mois pour faire un tableau, à peu près, un peu plus. Une fois que le tableau était à peu près sec, je le décalais sur un autre mur. Et finalement, au bout de 2 ans, j'avais perdu 3 mètres carrés dans ma chambre.
Oui, d'accord, oui.
Voilà. Et j'avais très mal à la tête parce que j'utilisais de la térébenthine à l'époque et... Même en hiver, je devais vivre la fenêtre ouverte.
Après. Et parce que c'est mon métier, ça. L'essence de térébenthine, c'est un produit qui est classé nocif par inhalation. Ouais. Ça veut dire que ça empoisonne, quoi. Ça veut dire que on s'empoisonne effectivement avec ça, même si l'essence de térébenthine est tirée de la sève des pins. Donc,
c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux.
C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux comme les amanites phalloïdes, c'est ce que je dis souvent.
Exactement. Hein. Vous savez qu'une amanite phalloïde est suffisante pour nourrir peinture. Un homme jusqu'à la fin de sa vie.
Oui, c'est très bien vu, ouais, tout à fait. Hein, donc, Donc,
mais,
c'est
mais
pour ça.
Mais du coup, je. Ouais. Mais comme j'avais pas, j'ai pas appris la peinture, je suis un autodidacte comme beaucoup de personnes. Hein. Du coup, je ne savais pas qu'il y avait la possibilité d'utiliser autre chose. Et j'avais prévenu que la térébenthine faisait des dégâts. Mais peut-être c'est que ça m'a aidé aussi à voir le monde autrement.
Oui. c'est vrai que la térébenthine, ça sent bon, mais c'est pas parce que ça sent bon que c'est pas mauvais. Voilà, c'est tout le problème effectivement des produits qu'on utilise.
Prendre des sens de lavande maintenant.
Voilà, donc on invite vraiment les auditrices et les auditeurs, hein, Daniel Bezaz, à venir voir donc votre exposition, mais aussi celle des autres auteurs, hein, des autres créateurs que vous...
Oui, il y a des personnages, je vous assure, il faut venir voir.
Voilà, que vous exposez.
Notamment l'œuvre d'une peintre que je n'ai pas encore publiée, mais le livre est en préparation.
Ah ben vous reviendrez nous voir pour ça, dès qu'il sera prêt, vous reviendrez nous voir pour ça, pour nous le présenter,
voilà.
On compte sur vous. Donc on rappelle cette exposition, Daniel Bezaz, hein, que vous faites actuellement, hein, au moment où l'on parle, donc quand les auditrices et les auditeurs vont entendre.
Jusqu'au 19 mai.
Voilà, jusqu'au 19
accès
mai.
Accès libre, venez boire un café, et après entrez dans l'art brut du musée.
Voilà, donc on rappelle, exposition à la Halle Saint-Pierre, donc à Paris. La Halle Saint-Pierre, elle est au pied de la butte Montmartre. Vous voulez avoir l'adresse? Métro Abbesse voilà. Ou...
Ligne 12.
Ligne 12, voilà, métro Barbès, donc ligne 12 à Paris.
Abbesse,
oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Barbès.
Métro Abbesse, c'est à côté.
Voilà. Vous pouvez prendre le métro Barbès aussi, descendre à Barbès.
Voilà.
Il faut marcher un petit peu, mais bon.
Ça fait pas de mal. On rappelle que la Halle, donc Saint-Pierre à Paris, hein, c'est un musée consacré à l'art naïf, l'art brut, l'art singulier, l'art outsider. On vous invite à réentendre le début de cette émission, effectivement, pour voir ces définitions-là. Voilà, et à écouter effectivement ces deux émissions, celle de la semaine passée en podcast sur les éditions Carnet Livre, donc maison d'édition créée il y a 20 ans, toujours par Daniel Bezaz, et puis d'aller voir aussi donc ce film en tapant sur Internet, une petite vidéo qui dure 11 minutes, hein, qui a été faite par Patrice Velu, voilà, VELUT, sur l'œuvre effectivement peinte par Daniel Bezaz. Ça vaut vraiment le coup. Voilà pour cette semaine, Philippe Subercase, ce qu'on pouvait dire sur Daniel Bezaz, avec qui on aura fait effectivement deux émissions particulièrement riches. Et je vous recommande, Philippe Subercase, si vous allez à Paris, d'aller voir cette expo. À Le Saint-Pierre, voilà, donc au pied de la butte Montmartre.
Eh bien écoutez, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine.
À bientôt, Daniel.
Au revoir.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase. You better think about what you're trying. They'll be free.
Dans le Luchonnet. 94 FM.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le cercueil de François exposé à la vénération des fidèles près de la tombe de Pierre. 20 000 fidèles étaient présents en place Saint-Denis.